Tempête et naufrage, acte 27. Et bon, j'ai trouvé cinq points qu'on pourrait aborder aujourd'hui. On arrive donc à la fin du livre des actes, mais pas à la fin des actes du Saint-Esprit. Alors pourquoi je dis ça? C'est une petite précision que je soulève, parce que souvent j'ai entendu dire que le livre des actes était les actes du Saint-Esprit. Alors oui, dans une certaine mesure, bien sûr, mais nous sommes aussi en quelque sorte la preuve que le Saint-Esprit a continué à agir après les actes, hein, à agir dans le monde, et cela jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Hein. Alors aujourd'hui, c'est tempête et naufrage. Alors on a vu l'apôtre Paul et ses compagnons fonder des églises dans ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie et la Grèce. Nous l'avons accompagné jusqu'à Jérusalem où il a été arrêté, mis en prison. Nous avons assisté à plusieurs procès et nous avons vu qu'en dernier recours, n'espérant plus obtenir justice devant les gouverneurs de province, Paul en a appelé à César. Ce qui signifie qu'il doit être transféré à Rome, où l'empereur lui-même tranchera son cas. Le voyage doit se faire en bateau, avec un premier navire qui ne va pas aller très loin, puis un second qui va traverser la Méditerranée avec une cargaison de blé. Alors on va lire le texte. Actes chapitre 27. Acte chapitre 27. Donc il reste encore bien sûr le 28, mais on va clôturer aujourd'hui le livre des Actes. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte impériale du nom de Julius. Monté sur un navire d'Adramitre, qui devait côtoyer l'Asie, nous avons gagné le large et avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous avons longé la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. Là, le centenier trouva un navire d'Alexandrie à destination de l'Italie et nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Nous avons atteint à grand-peine les parages de Cnide. Et comme le vent ne nous permettait pas d'aborder, nous avons longé la crête vers Salmonée. En la côtoyant avec peine, nous sommes arrivés à un lieu appelé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car le jeûne était déjà passé. C'était l'automne, hein ? C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Et comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la plupart furent d'avis de remettre la voile pour atteindre si possible Phénix, port de la Crète, tourner vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet, levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète. Mais bientôt, après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Euraquilon se déchaîna. Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent. Et nous nous sommes laissés aller à la dérive, tandis que nous passions au-dessous d'une petite île appelée Clauda. Nous avons réussi avec peine et à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceinturer le navire et dans la crainte d'échouer sur la Sirte, on abaissa la voile. C'est ainsi qu'on allait à la dérive. Fortement secoué par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit « Vous auriez dû m'obéir et ne pas partir de Crète. Vous auriez eu évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car chacun de vous ne perdra pas la vie. Seul le navire sera perdu. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et rend un culte, s'est approché de moi cette nuit et m'a dit « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent, la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage. J'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île quelconque. C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique. Quand les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent l'approche de quelques terres. Ils jetèrent la sonde et trouvèrent 20 brasses. Après avoir couvert une courte distance, ils la jetèrent à nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte d'échouer sur les récifs, ils jetèrent 4 ancres de la poupe. Ils souhaitaient la venue du jour. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et laisser glisser la chaloupe à la mer, sous prétexte d'aller depuis la proue fixer plus loin les ancres, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pourrez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordages de la chaloupe et la laissèrent tomber. En attendant la venue du jour, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture en disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous restez à jeun sans rien prendre. Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture, car c'est nécessaire pour votre salut et personne de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Cela dit, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. Alors, de bon cœur, nous prirent de la nourriture. Nous étions dans le navire, 267 personnes en tout. Quand ils eurent assez mangé, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour parut, ils ne reconnurent pas la terre, mais aperçurent un golfe avec son rivage, et résolurent d'y pousser le navire si possible. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils tombèrent sur un banc de sable entre deux courants et laissèrent échouer le bateau. La proue, bien engagée, demeurait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il donna l'ordre à ceux qui pouvaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de le faire soit sur des planches, soit en quelques débris de navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Quelle aventure, on pourrait en faire un film. Hein. Le récit du voyage de Paul vers l'Italie pour une comparution devant César nous permet d'observer de quelle manière l'apôtre, placé dans un contexte et une situation humaine en détresse, s'est comporté et a pu être un témoin de Christ. Et ce chapitre 27 a vraiment des leçons à nous apprendre. Parce que finalement, lorsque, personnellement, je n'ai pas de soucis de santé, que l'éducation de mes enfants se passe pas trop mal, que ma vie de couple est sans nuages, que je ne prêche pas sur un texte qui me déplaît, que mes projets s'accomplissent, que je ne suis pas atteint d'une grave maladie, que j'ai mes heures de sommeil, tout va bien. Encore bien plus si le ministère que j'exerce correspond à mes dons, à mes capacités, et que j'éprouve de la joie en le pratiquant. Tout va bien. Lorsque rien ne vient ternir l'enthousiasme finalement de ma vie chrétienne et de ma vie en général, eh bien, lorsque le bateau est étanche, ben, tout va bien. Tout baigne, hein, je dirais. Lorsque ton état de santé te permet de te lever, de faire ta toilette, de t'habiller sans trop de difficultés, lorsque tu peux encore te rendre au culte le dimanche matin, dans ton église locale, que tes yeux peuvent encore ouvrir la Bible, que tu peux encore entendre avec tes oreilles la prédication, ça va. C'est vrai ou pas ? Est-ce que dans ces moments-là, est-ce que c'est vraiment dans ces moments-là où tout va bien, que l'on peut vraiment mesurer l'état de notre force spirituelle ? Est-ce dans ces moments-là où nous nous sentons le plus à l'aise, que finalement nous nous connaissons le mieux, et que nous pouvons mesurer notre attachement à Christ ? Pour ma part, c'est lorsque je suis déraciné, avec les nuages d'opposition, avec cette opposition peut-être à mes projets, à ma vie, lorsque je suis placé dans un environnement qui ne m'est pas familier, finalement c'est à ces moments-là que je peux faire le plus l'expérience de l'avantage et la force que représente le fait d'appartenir à Christ. Et au cœur de notre texte aujourd'hui, il y a une tempête, il y a un naufrage, mais il y a surtout une attitude. Celle de l'apôtre Paul, bien sûr, hein. On va essayer d'extraire quelques pépites de ce texte historique. Et on va clôturer aujourd'hui ce périple dans le livre des Actes. Et ce serait génial qu'il sonne à nos cœurs, finalement, comme un encouragement, que nous puissions être renouvelés et puiser ce matin, finalement, des forces au milieu, je dirais, des incertitudes de la vie, parce que nous en vivons, nous en vivrons, nous en avons vécu, mais c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Le premier point, c'est l'intuition. Alors, bien sûr, l'intuition de l'apôtre Paul. Quelqu'un a dit, je cite, « L'intuition est la grande voie de l'inconnu vers lequel nous pousse notre destinée. » C'est beau. Il y en a un autre qui a dit « L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. » L'intelligence qui commet un excès de vitesse. Sous-entendu, qui nous fait prendre des risques aussi. Parce que l'intuition, c'est pas toujours très certain, quoi. Pas toujours faillible. Ou infaillible, plutôt. Et avant que les difficultés n'arrivent et qu'elles puissent même être pressenties par intuition, Paul possédait par Dieu la prescience de ce qui allait se passer. Parce que il a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec lui. Et l'Esprit de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu, c'est beaucoup plus que de l'intuition. N'est-ce pas ? Au verset 10, il est dit, c'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » On va avoir des soucis. Alors bien sûr que Paul avait l'habitude de la navigation, et il y avait de fortes chances pour que l'Esprit de Dieu exacerbe cette intuition en tant que serviteur de Dieu, c'est parfois le cas dans nos vies, il souligne, l'Esprit de Dieu vient titiller notre intuition et nous pousser à réfléchir, à regarder un petit peu les choses, prendre du recul sur ce qui se passe. Mais dans ce cas précis, les conseils de Paul vont même à l'encontre du timonier, c'est-à-dire du celui qui conduit le navire, et du capitaine. Paul les avertit des dangers auxquels ils risquaient de s'exposer en poursuivant la route. Alors c'est un encouragement pour nous, parce que finalement, si nous sommes placés dans une situation ou un contexte inhabituel, c'est-à-dire dans n'importe quelle circonstance, difficile, même si nous ne sommes pas humainement qualifiés pour nous prononcer sur quelque chose, sur un sujet, eh bien nous pouvons compter sur la sagesse de Dieu pour discerner ce qu'il convient ou pas de faire. Paul n'est pas capitaine de bateau, il n'est pas timonier, il n'est pas monsieur météo, même s'il y a quelques éléments qu'il connaît. Notre avis, dans une situation difficile, où nous sommes pris dans une situation qui est difficile, peut ne pas être pris par des professionnels, pris en compte, en tout cas. On peut se ficher de nous. Mais avec le temps, souvent, parfois, il arrivera qu'on se rende compte que ce que nous avons dit était vrai, était inspiré. Un autre mot vient s'ajouter à celui de l'intuition, c'est le mot inspiration. Le mot inspiration. Notre jugement sur les choses, les événements, les circonstances, tout ça, ça ne s'appuie pas uniquement sur des impressions ou des analyses humaines de la situation. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes censés avoir la pensée même de Christ sur les choses. Les avis que donne Jésus, parce qu'ils proviennent de plus haut, d'une source à laquelle la raison et l'intelligence humaine n'ont pas accès, ne sont pas toujours explicables et échappent à l'analyse rationnelle. Du coup, on risque de ne pas être pris au sérieux dans ce que nous avons à proposer comme solution, ou comme direction, ou comme vision. C'est intéressant pour l'Église locale, hein, de faire cette comparaison. Mais on va voir pourquoi plus tard. Deuxièmement, embarquer de force. Paul est embarqué de force. Il doit se rendre, il doit aller voir César, quoi. C'est comme ça. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être embarqué de force dans une galère? Parce que là, c'est la galère. Hein. Embarqué dans une situation que tu n'as pas choisie. Une situation dans laquelle tu avais un avis contraire. Tu es dans cette situation-là et tu n'étais pas d'accord. Au fond de toi, tu n'étais pas d'accord. Tu as suivi le mouvement, mais tu n'étais pas d'accord. Réfléchis un instant. Je suis sûr qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit. Dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines de notre vie, il y a des moments où nous nous sommes embarqués dans des trucs que nous n'étions pas OK. Ça peut être dans ta vie de famille, ça peut être dans ta vie de couple, ça peut être dans ta vie, dans ton monde professionnel, ça peut être dans ton église locale. Il y a des tas de moments dans la vie où on s'embarque dans des trucs on n'est pas d'accord. Un peu de force, hein. En tant qu'enfant de Dieu, tout au long du voyage, et je dis bien tout au long du voyage, quoi qu'il nous arrive, et je répète encore, quoi qu'il nous arrive, nous pouvons compter sur la fidélité de Jésus. C'est ça qui est fabuleux. Mener là où nous n'aurions pas voulu être, avoir pris des décisions que nous avons le sentiment que nous n'aurions pas dû prendre, Jésus est quand même là. Ça, c'est important à vraiment l'ancrer dans notre vie, dans notre tête, dans nos cœurs, parce que c'est vraiment ce qui fait toute notre spécificité en tant qu'enfant de Dieu. Dans le cas de Paul, qui pourrait être aussi le nôtre, hein, le Seigneur l'accompagne, le soutient, le conduit. Il lui donne même d'apparaître dans son entourage, au milieu de la détresse, comme la voix de l'espoir. Comme la voix de l'espoir. Il devient celui qui a une parole d'espoir pour l'équipage, pour toutes ces personnes qui sont sur ce bateau. 276. Cet exemple peut se coller à notre vie individuelle, mais aussi à notre vie communautaire. On relit les versets 22 à 26. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit « Sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île quelconque. » Alors c'est vrai, on pourrait s'arrêter sur l'histoire des anges. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, au Dieu à qui j'appartiens et rend un culte. Comment cet ange s'est adressé à Paul? Comment faire la différence entre la parole d'un ange et celle du Seigneur dans nos vies? C'est pas simple. Hein? Pas simple du tout. Il savait que c'était un ange. Je sais pas si déjà un ange t'a parlé, quoi. Mais c'est possible. Apparemment, c'est possible. Puisque ça a arrivé à Paul, ça peut nous arriver à nous. Bref. Nous devons échouer sur une île quelconque. Un avis que le timonier et le capitaine devraient prendre en compte. Mais non. Tout comme à l'embarquement, Paul a eu accès à une connaissance surnaturelle de ce qui allait se produire. Tout au long du voyage, il fera l'expérience de ce même avantage. Christ lui révèle ce qu'il faut faire, à l'instant même, et comment les choses vont se terminer. C'est quand même incroyable. Moi, ça m'interpelle parce que je crois que ces choses-là me disent que nous avons quand même, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, un avantage considérable par rapport à ceux qui nous entourent. On ne s'en rend pas compte, on ne le réalise pas tout le temps, mais nous avons un avantage qui est considérable par rapport aux gens qui nous entourent. Dans les situations de détresse, ils peuvent uniquement compter sur leur propre force. Ils peuvent uniquement compter sur leur lumière, sur ce qu'ils comprennent, sur leur raisonnement. Mais nous, on a un avantage. On n'est pas obligé de compter uniquement sur notre raisonnement et nos forces à nous. On peut compter sur le Seigneur. Et c'est un avantage qui est considérable. Nous avons accès à une force et une lumière qui est surnaturelle, capable de nous communiquer une assurance, une paix, une direction, un espoir. Et dans une situation extrême, Paul, à cause de la relation qu'il a avec son Dieu, est devenu finalement la principale source d'espoir pour tous ceux qui étaient embarqués avec lui. Je suis sûr que ça vous fait réfléchir ça. Moi, en tout cas, ça m'interpelle dans la situation dans laquelle notre monde est actuellement. C'est sûr, il y a des choses qui se passent qui sont difficiles à vivre. C'est sûr qu'on s'inquiète, il va y avoir les élections. Et puis on a vu la clique en train de dire chacun son mot, là, il y a deux soirs. Et puis après, il y aura encore d'autres débats, et de ceci, et de cela. Aux États-Unis, il nous revient aussi des trucs pas possibles, sur des débats, sur des accusations. Et puis on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et le monde qui est autour de nous, vous imaginez? Impuissant. Il n'y a aucune solution. C'est insoluble. Tout le monde sait que rien ne va plus, que tout est finalement à la merci de quelques personnes. Tout est à la merci de ce que les médias veulent bien nous dire. Et nous, on est là, on encaisse, on boit, et on peut être angoissé. Peut-être perturbé par tout ça. Et peut-être que la situation, enfin peut-être, certainement que la situation va s'aggraver. Et peut-être qu'on devra revenir à ce passage, à dire, mais dans des situations extrêmes, quelle est notre place? Peut-être qu'on va nous regarder comme, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'en ce moment, la religion est visée, hein, et quelle qu'elle soit, hein, faut pas croire que nous, on va passer au travers des mailles du filet. Hein. Mais c'est intéressant de savoir quand même qu'à un moment donné, peut-être qu'on va nous prendre pour des fous, peut-être que les gens bien pensants et les gens qui pensent avoir tout compris sur la société, etc., vont nous regarder en disant « Mais les amis, vous êtes complètement illuminés. Hein. » Et puis à un moment donné, ils vont se dire « Mais peut-être qu'ils avaient raison. » Et je pense qu'à un moment donné, ils vont se dire, tôt ou tard, ils vont se dire, ils avaient raison. Alors, troisième point, c'est autorité ne rime pas avec fonction. Versets 30 à 32. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et laisser glisser la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller depuis la proue fixée plus loin des ancres, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. La voix de Paul est tout à coup devenue la voix écoutée et l'autorité de sagesse à laquelle toutes les autres autorités se sont alignées. Cette réalité n'est pas due à son statut d'apôtre, hein, même si en tant que citoyen romain, il était préservé, d'ailleurs on voit bien, hein, on l'a laissé aller voir ses amis, etc., hein, pendant l'escale, mais quand même il est prisonnier. Quand même. Mais cette réalité-là, où tout le monde se met à écouter Paul, n'est pas liée à son statut, ni à sa fonction, parce qu'il n'est pas capitaine, il n'est pas timonier. Mais on va écouter Paul parce qu'on réalise que Paul a quelque chose en plus. Et Paul, nous on le sait, est à l'écoute de Dieu. Et c'était très important de comprendre cet aspect dans nos vies et dans le cadre de l'Église locale. Nos statuts ne nous octroient pas nécessairement une autorité. Le statut ne donne pas d'autorité. Je vous assure. On a cette impression, parce qu'on est dans un contexte qu'on a tendance à calquer sur la société, mais non. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur, ancien ou diacre, ou quoi que ce soit d'autre, qu'on a automatiquement l'autorité qui va avec. Ce n'est pas le statut qui crée la fonction. Il y a des statuts, il y en a qui apprennent à être pasteurs. Ils ont fait des études pour ça. Mais au fond de leur cœur, ils ne le sont pas. Ils n'ont pas le don. Ils n'ont pas la sensibilité. Ils n'ont pas le truc. C'est spirituel. C'est pas un statut, c'est pas quelque chose qui... Alors bien sûr, la formation vient aider, vient parfaire, vient donner un cadre. Mais, avant tout, l'autorité vient du Seigneur. Et pas d'une fonction, ni d'un statut. On fait un tour dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre de l'Exode, au chapitre 18. Je vous lis à partir du verset 13. Cet épisode-là, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient là devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Et Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque chose à faire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de mille, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Mais les personnes qui sont choisies, c'est des personnes qui ont, qui ne sont pas les spécialistes, hein, finalement, mais des personnes qui ont un cœur, qui sont intègres. En fait, l'autorité procède de la sagesse que nous communique l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas à nous battre pour l'affirmer. Ça, c'est un non-sens. Elle s'exerce naturellement et elle est reçue sans effort ni discussion après que dans une situation donnée, le Seigneur ait permis que nous ayons fait nos preuves. Vous comprenez ? En fait, il y a le vieux proverbe qui dit « c'est au pied du mur qu'on voit le maçon ». Personne n'a toutes les qualités. En tout cas, Paul, dans ce cadre-là, il montre, ce passage nous montre que finalement, son autorité ne vient pas de sa fonction, ni de son statut. Elle vient qu'à ce moment donné, il a donné des directives, il a donné les idées qui ont pu être mises en pratique et on a vu les effets. Quatrièmement, générateur de confiance. En fait, Paul communique son assurance et sa foi à son entourage. Est-ce possible ? Versets 33 à 38, en attendant la venue du jour, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui, le 14e jour, que vous êtes dans la tente et que vous restez à jeûne sans rien prendre. Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture car c'est nécessaire pour votre salut. Et personne de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Cela dit, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous et se mit à manger. Alors, de bon cœur, tous prirent de la nourriture. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Et quand ils eurent assez mangé, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Paul a été générateur de confiance pour 276 personnes. Paul a communiqué à ces 276 personnes que la confiance en Dieu était plus sûre et plus forte que la sagesse et la raison humaine. Même celle du capitaine. Je fais juste une parenthèse. On avait une réunion à Antibes, l'église d'Antibes, qui vous passe le bonjour d'ailleurs. Tar et moi, on y était. Et puis, on a parlé un petit peu du fonctionnement. Le fonctionnement de notre Église, par rapport à leur fonctionnement. Sans jugement, hein. Mais ils ont trouvé que dans notre Église, il y avait comme une sorte de... Il n'y avait pas les anciens, puis les diacres. Tu vois ? Il y avait les anciens et les diacres. Je dirais même, il y avait les membres aussi. Et ils ne comprenaient pas trop. Alors c'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas du tout dans le même nombre. Et j'ai réfléchi un petit peu à cette question cette semaine. Et puis, au travers de ce texte, c'est tout bête, hein, mais je me suis dit, mais c'est vrai que finalement, la réponse que le conseil d'église en tant que diacre plus ancien donne, la réflexion, la perspicacité des réponses que les diacres et les anciens donnent à une question quelconque est plus importante et plus pertinente que si c'était que les anciens, en l'occurrence Tar et moi, que nous les donnions. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que nous avons un fonctionnement spirituel. C'est qu'on a compris que la réponse du conseil, elle est plus pointue et plus réaliste que celle des anciens. Seul. Et ça, c'est fantastique. Vous voyez ? Parce que nous ne sommes pas dans un fonctionnement de statut, même si nous avons une fonction. Ceux qui viennent d'un milieu d'église où tout est carré, et tout est organisé, et tout est... voilà, dans la Bible, il est dit ça, et ça, et ça. Attends. Le bon sens est où? Dieu nous appelle d'abord au bon sens. Et c'est intéressant de voir les choses de cette manière-là. Donc, ce qui compte, c'est d'être générateur de confiance. En faisant finalement la démonstration de la différence d'avantage qui existe dans les situations d'extrémité entre celui qui s'appuie sur Dieu et ceux qui n'ont qu'eux-mêmes pour faire l'impossible. Parce que dans notre société, on s'appuie sur soi-même. Et pour faire ce qui est impossible, eh bien on s'appuie encore sur nous-mêmes. Dans le royaume de Dieu, pour faire l'impossible, on s'appuie sur celui qui est capable de faire l'impossible. Parce qu'on sait que nous-mêmes, on n'y arrive pas. Alors c'est à réfléchir. Est-ce que personnellement, en tant que... Je parle personnellement, je parle dans la globalité de l'église locale, parce que je pense que c'est une entité. Nous avons été générateurs de confiance. Ou peut-être même, allez, personnellement, individuellement, est-ce que nous avons été générateurs de confiance pour un frère ou pour une sœur? Et en tant que communauté, est-ce que nous pouvons être générateurs de confiance pour ceux qui nous entourent? Cinquième et dernier point, qui sauve, se sauve. Je crois que c'était Emmaüs qui disait ça, qui sauve, se sauve. Aux yeux de l'équipage de ce navire, Paul va devenir leur sauveteur. Du coup, eh bien, il va faire l'objet de leur part d'une bienveillance particulière et tous les prisonniers vont en profiter. Versets 40 à 44, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers. Comme ça, le problème est réglé. De peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il donna l'ordre à ceux qui pouvaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de le faire, soit sur des planches, soit sur quelques débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Un seul homme, une seule femme, peut faire basculer le destin de nombreuses personnes. Un seul homme, une seule femme, disciple de Jésus-Christ, connectée à Dieu, peut faire pencher les cœurs. Ce chapitre 27, je pense qu'il peut devenir une source d'inspiration pour nous, dans notre vie de tous les jours, hors de nos murs, parce que dans nos murs, on est en sécurité, en force. Nombreux sont assemblés dans une même foi. Nous sommes à la fois embarqués ensemble dans la vie de l'église locale, mais en même temps fragiles, il faut le dire, dans le cadre de la société dans laquelle on vit, ne serait-ce que par nos idées, par les valeurs que nous mettons en avant, il y a une certaine fragilité aux yeux de la société, hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de forces destructrices qui finalement s'unissent contre nous. Contre Christ, contre nos valeurs, contre celles de Christ. On vit dans un monde où nous n'avons pas, comme disait Paul, à lutter contre la chair et le sang, mais contre des spiritualités, des idées. Et ce texte, c'est une invitation finalement à monter, ou plutôt à rester dans la barque, unis les uns aux autres, non seulement par notre volonté, pas uniquement parce qu'on le veut, ni parce qu'on a un projet humain, mais parce qu'on y est convoqué par Jésus, parce qu'on y est appelé par Jésus. C'est lui qui nous rassemble à un seul corps, à un seul équipage finalement. C'est lui qui accompagne chacun de nous dans les heures les plus difficiles, parfois horribles, de la tempête. Unis les uns aux autres, non pas seulement par notre volonté propre, mais il est là. Il ne faut pas nous leurrer, hein. On va avoir à traverser des heures difficiles, les tempêtes venant parfois ébranler nos convictions, nous exaspérer, nous fragiliser. On a vécu ces derniers temps des choses, certains d'entre nous ont vécu des choses tragiques qui me font penser aussi à ce que j'ai vécu aussi moi dans ma vie. Moi j'ai perdu mon grand-père qui était mes yeux, c'était tout comme mon père. J'avais une relation avec mon grand-père qui était hors du commun. Et il est parti, je ne sais pas s'il est parti avec Christ ou pas. Et ça, je le garde, je le transporte avec moi. Je vis avec. Et je fais confiance à Dieu. Parce que lui, il sait. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent arriver dans nos vies. Des choses qui sont tragiques, incompréhensibles, difficiles à encaisser. Et finalement, on se rend compte que c'est Jésus qui nous mène sur l'autre rive, cette rive où il nous attendra et dont il est l'unique Seigneur. Et finalement, ce bateau, ben, c'est un peu l'image de la société dans laquelle on vit aussi. On n'a pas choisi nos concitoyens. On ne les a pas choisis. Ils sont comme ils sont. Et la plupart d'entre nous sommes tributaires de décisions prises par le gouvernement, par un patron ou par un chef de service. Nous sommes dans le même bateau que tout le monde, et parfois malgré nous. Par beau temps, quoi, ça ne pose pas de problème. Il fait beau, le ciel brille, tout va bien. Mais quand le bateau tangue et que la société est en péril, eh bien, les marins disent, c'est vrai que quand le bateau va, tout va, mais quand il ne va pas, il n'y a plus rien qui va. Pendant un temps, ça allait, puis la tempête est venue. Et ça n'allait plus du tout. Et on peut être submergé par les mêmes sentiments de la société qui nous environne. Exactement les mêmes. Parce qu'on est humain. Mais on peut quand même avoir un peu d'espoir, pas comme Luc. Hein, Luc il souligne au verset 20 le désespoir qu'il y avait. Hein, l'équipage, il dit, pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'être sauvés. Il s'inclut, hein, Luc, qui a écrit, il s'inclut dans le lot. Ils commencèrent à perdre tout espoir. Et il se peut que dans nos vies, nous commencions à perdre tout espoir. Alors, est-ce que ce matin, tu es en train de désespérer? Est-ce que tu es au milieu d'une tempête dans ta vie? Est-ce qu'en ce moment, il y a des choses qui te travaillent, l'impression que tu perds pied, que ta foi est en péril? Est-ce que tu es en train de perdre tout courage, tout enthousiasme? C'est sûr, le Seigneur nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, quelle que soit la tempête que tu es en train de traverser. Et dans ce passage du livre des Actes, l'apôtre Paul met en pratique finalement un verset qu'il a enseigné lui-même. On va finir là-dessus. Il a enseigné lui-même aux Corinthiens, on va le lire, et on se quittera juste sur ce verset. C'est dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, versets 3 et 4, où il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » Mes amis, nous appartenons à Dieu, nous pouvons tenir dans la tempête et nous pouvons être en bénédiction pour d'autres. Voilà ce que nous dit ce chapitre 27. À lui soit la gloire. Je vais prier. Seigneur, merci de nous rappeler par ce texte combien tu prends soin de nous. Et Seigneur, je te demande pardon parce que lorsque tout s'écroule, lorsque tout ne va pas comme je l'avais décidé ou je l'avais prévu, j'ai tendance à oublier que tu es là et que tu prends soin de moi. j'ai tendance même à me plaindre. Me plaindre que tu ne me vois pas, que tu ne vois pas dans la situation dans laquelle je suis. Seigneur, je te demande pardon pour cela. Parce qu'en fait, tu vois, tu entends, tu sais, tu connais le début et la fin. Tu es avec nous dans le voyage de la vie. Et où que nous allions, tu es là. Seigneur, simplement, nous voulons te dire merci ensemble, ce matin, au nom de Jésus-Christ.